Bien, on va reprendre. Merci. Dur, hein, début d'après-midi. Bon, se former au jeu. Comment devient-on professionnel du jeu ? Voilà, je suis remarquablement entouré d'Hélène Rio. Hélène, tu es bibliothécaire. Voilà, tu as exercé en bibliothèque municipale une vingtaine d'années à Blanquefort. En tant que responsable du secteur jeunesse et puis en direction adjointe. Et puis tu as occupé de 2007 à 2013 le poste de chargé de mission lecture publique à Arpel, devenu Éclat. C'est ça, l'agence régionale de coopération pour le livre. Et puis depuis septembre 2013, tu es responsable pédagogique au sein du centre régional de formation aux carrières bibliothèques à Médiaquitaine. Et tu es en charge des programmes de formation continue pour les bibliothèques territoriales, notamment dans le champ de l'éducation artistique et culturelle. Et tu es responsable du DU littérature jeunesse en bibliothèque. Et à ce titre, bien évidemment, la thématique du jeu en bibliothèque est prise en compte dans vos programmes. Et Médiaquitaine est aussi organisateur de journées professionnelles sur le sujet. Anne Mazet, grand merci également à vous, car vous remplacez au pied levé. Alors, c'est pas peu dire au pied levé, c'est-à-dire depuis hier. Voilà, Patricia Petit, qui elle, Patricia Petit est directrice de l'association Interlude, laquelle anime un réseau de ludothèques sur Bordeaux, mais Patricia Petit est souffrante, donc nous avons une pensée pour elle. J'ai aussi une pensée, merci Evelyne et Mélanie, les organisateurs, pour vous être démenés et avoir sollicité dans ces délais, et pour vous pour avoir répondu dans ces délais à cette invitation. Vous êtes ludothécaire. Vous m'avez dit depuis environ 25 ans. Oui. Vous êtes responsable de Ludo Club, la ludothèque associative de Condon. Et vous êtes également présidente de la section Midi-Pyrénées de l'association des ludothèques françaises. Vous avez fait le choix il y a 2 ans de vous lancer dans une démarche de formation diplômante ici, à l'IUT de Bordeaux 3. Et vous venez tout juste d'obtenir la licence gestion et animation de ludothèque. Et vous avez, dans ce cadre-là, produit un mémoire sur l'évolution du métier de ludothécaire et sa professionnalisation. Et puis, participation au projet Tutoré qui a été évoqué ce matin, Voyage avec Montaigne, dans le cadre de la formation. Nicolas Dion, merci de votre présence également. Vous êtes ludothécaire, vous êtes président de la ludothèque La Marelle, à Albi. Vous avez un parcours précédent qui est plutôt lié au monde de l'animation, de la formation, de l'éducation populaire, lié au milieu artistique, notamment dans le champ du théâtre. Vous êtes titulaire d'un DESS expertise et médiation culturelle. Et il y a 3 ans, vous avez également entamé un cycle de formation et obtenu le diplôme de ludothécaire qui est délivré par le Centre de formation au métier du jeu et du jouet de Lyon, le FM2J.
C'est ça.
C'est ça.
Certification, ouf. Parfaitement.
En fait, vous êtes président aussi de l'Association des ludothécaires français. Donc nous avons un joli plateau, non ? Un plateau de jeu ?
Oui, bon.
Facile, mais on va jouer un peu.
Ah, il faut.
Voilà, nous disposons d'une heure, hein, ça va passer très vite. Nos échanges vont forcément être faire écho à ceux de la matinée, un petit peu, notamment ceux qui ont été relatifs aux différences, complémentarités, convergences entre ludothèque et bibliothèque. On a bien senti que la question de la formation était, enfin, de la formation et du statut des ludothécaires et des bibliothécaires qui croisent plein d'autres questions qui sont celles de la montée en puissance du jeu dans les médiathèques et donc qui posent la question aussi économique et politique de la place des ludothèques dans notre champ, dans notre société civile. Donc ça va aller vite, une heure. Je voudrais qu'on garde quand même un petit peu quelques minutes à la fin. Pour échanger avec la salle. Anne Mazet, on va commencer avec vous. Après, j'aurai que des questions pour tous, de toute façon. Parce que vous avez donc produit un mémoire sur l'évolution du métier de ludothécaire et sa professionnalisation, tout récent. Et donc, parce qu'il nous interroge forcément la question de la formation, est-ce que vous pouvez nous décrire très rapidement les points saillants de l'histoire de cette professionnalisation du métier de ludothécaire ?
Ouais. Bonjour à tous. Alors avant de répondre à la question, en rentrant du restaurant, là, on était très pressés et je regardais mes pieds quand même mes collègues et amis joueurs vont reconnaître. J'ai pas pu m'empêcher de ramasser ça. Je sais pas. si ça évoque des choses à certains. Ça doit être un réflexe de ludothécaire. C'est une carte du jeu Docteur Maboul. Et c'est un os de vœux. Donc moi j'ai envie de dire que c'est un clin d'œil sympa pour cette journée. Donc la formation des ludothécaires, elle débute forcément au début de l'apparition des ludothèques en France. Et ça, c'est 1968, la première ludothèque à Dijon. Et lorsque on suit un peu l'historicité du mouvement des ludothèques, on a 5 grandes périodes. Et dans ces 5 grandes périodes, on arrive à définir 3 périodes, 3 grands temps des formations des ludothécaires. Donc en faisant très vite, parce que vraiment on n'a pas le temps, on a 1967 à 1990. C'est la formation essentiellement issue des organismes de formation de l'éducation populaire, de l'animation socioculturelle. Et on forme essentiellement des animateurs spécialisés dans l'activité jeu. 1990-2000, c'est l'apparition de la première formation uniformation du secteur de l'animation. Et le secteur de l'animation est toujours très présent. Et l'ALF lance sa première formation continue à cette époque-là, 1990-2000. Ensuite, 2000-2016, c'est marqué par l'apparition de 2 événements. D'abord, c'est la création des licences professionnelles à Cholet et à Bordeaux. Poum poum, à peu près en même temps, presque. Et puis ensuite, il y a un troisième acteur dans la formation qui arrive. C'est ce qui a été évoqué avec la formation de Nicolas. C'est FM2J, qui est donc le troisième acteur important de la formation initiale des ludothécaires. Voilà, ces 3 grandes périodes-là. Donc 1967-1990, c'est les débuts vraiment du mouvement des ludothèques. 1990-2000, c'est la profession qui se cherche son identité. 2000-2016, construction d'une identité professionnelle et une professionnalisation, toujours à l'heure actuelle, au cours. Voilà ce qu'on peut dire sur...
Okay, merci. Et donc dans le prolongement, donc il existe des cursus diplômants. Je vais les lister là, mais ça va aller assez vite parce qu'en réalité il n'y en a pas tant que ça. Ils sont relativement récents. D'ailleurs pour la licence de Bordeaux 3, c'est 2010. Hein. Il y a un DU avant, et je crois. Hein, donc c'est récent.
C'est ça. Alors, le DU c'est 2000. Voilà, et la licence c'est 2010.
Donc j'en cite quelques-uns pour ne pas dire tous. De toute façon, vous les retrouverez tous sur le site de l'ALF que je vous invite évidemment à consulter. Il y a donc à Bordeaux, Bordeaux 3, la licence professionnelle gestion et animation de ludothèque. Il y a Université d'Angers, antenne de Cholet, la licence professionnelle ludothécaire médiation jeu. Il y a à Paris 13, une licence sciences de l'éducation, intervention sociale et culturelle. À Paris 13 également, un master éducation, formation et intervention sociale spécialisée loisirs, jeux, éducation. On y arrive. Il y a le diplôme de ludothécaire, centre de formation au métier du jeu et du jouet de Lyon, donc le FM2J. Et puis, il y a un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire, du sport, animation culturelle, développer le jeu dans une démarche culturelle, les maisons des jeux de Grenoble. Voilà. Donc, il y a ces cursus diplômants de ludothécaire qui existent. Mais par ailleurs, vous intervenez tous, donc la question je la pose à chacun, également les uns les autres, soit à titre personnel, soit dans le cadre de l'ALF, ou par l'organisation de journées professionnelles, par Midi Aquitaine, de façon complémentaire à ces formations. Et donc je voudrais savoir envers quel public et pour combler donc quels besoins.
Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, on trouve beaucoup de dispositifs. Alors, on emporte un certain nombre à l'ALF, mais on en voit ailleurs. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'on est encore sur un secteur qui est assez jeune. Je crois qu'on en a parlé ce matin, où les gens sont encore loin d'être tous formés. Et où il y a des gens qui s'engagent dans un processus de formation initiale de ludothécaire. Il y a aussi des gens qui, après, viennent chercher des éléments, un peu de manière décousue, pour enrichir leur pratique, des gens qui ont un peu plus appris sur le tas. On a un autre phénomène qui est corollaire à celui-là, qui est qu'il y a, on en a parlé ce matin, on a un peu le double niveau, c'est-à-dire qu'on a un niveau de ludothèque publique, alors qu'il y a effectivement autour d'une 40%, et des ludothèques associatives. Et dans les ludothèques associatives, il y a des questions de moyens qui sont assez prégnantes et qui fait qu'on a beaucoup recours à des emplois aidés. Et il y a beaucoup aussi de formations sur des... Alors il y a des emplois aidés qui sont envoyés sur des formations longues, mais il y en a aussi qui vont aller faire que quelques modules et qui vont un petit peu piocher ce qui leur est nécessaire, parfois pas forcément d'avoir le diplôme de ludothécaire en entier, mais qui vont avoir besoin de quelques compétences en termes de classification, en termes de choses et d'autres, et qui vont un peu composer leur formation à partir d'éléments de formation continue. Le deuxième point, c'est que je crois que c'est un milieu où il y a beaucoup de problématiques qui se posent. Alors on a des problématiques qui sont des problématiques émergentes. Alors par exemple autour du jeu vidéo, pas que le jeu vidéo soit lui-même émergent, hein, mais effectivement il y a l'explosion du jeu vidéo et l'appropriation qui en font en ce moment les ludothèques posent aussi des questions parmi les professionnels ludothécaires. Mais on va en trouver aussi par rapport à d'autres supports ludiques. Il peut y en avoir par rapport aux jeux de rôle, il peut y en avoir par rapport à des escape rooms ou des escape games. Enfin voilà, il y a tout un tas de champs comme ça qui... Le monde du jeu évolue constamment et du coup, nous amène des questions. Il y a des problématiques qui évoluent par rapport au jeu, par rapport à la violence dans les jeux, par rapport aux questions de genre, par rapport aux questions de handicap, par rapport aux évolutions sociétales qui font que le jeu est parfois questionné, par rapport aux questions de radicalisation ou tout un tas de phénomènes qui traversent la société. Et puis nous, on a aussi un travail à faire. On est encore moins structuré aujourd'hui que ne peut l'être le mouvement des bibliothèques. Et on a besoin encore de travailler notre cohérence à l'intérieur du mouvement, c'est-à-dire d'aller vers un certain nombre de pratiques, un certain nombre de réflexions, un certain nombre de positionnements globalement à l'intérieur même du courant des ludothèques et des ludothécaires. C'est vrai qu'on a des structures qui sont extrêmement variées et on constate qu'il y a un vrai travail encore à ce niveau-là. Et puis le dernier point, et j'arrête là, après promis, parce que je commence à être long, c'est qu'on est de plus en plus sollicité par des professionnels extérieurs. On est de plus en plus sollicité alors par des professionnels de toute nature. Alors évidemment, bibliothécaires, médiathécaires et tous les techaires, pardon si j'en oublie, ludo-médiathécaires évidemment. on est sollicité aussi par le champ de l'animation socioculturelle, mais par aussi des champs paramédicaux dans les EHPAD, autour de la prise en compte de patients très âgés atteints de pathologies type dégénératives, type Alzheimer, etc., autour de psychomotes, enfin voilà, il y a vraiment énormément de professionnels aujourd'hui qui font appel à nous et qui font appel à qui ont besoin d'avoir des élargissements sur la question du jeu, sur la question de la manière de le proposer, sur les types de supports auxquels ils peuvent avoir intérêt. Enfin voilà, déjà trois pistes qui peuvent. Il y en a peut-être d'autres encore, mais
je vais laisser les uns les autres réagir.
Merci. Alors, je vais peut-être m'adresser un peu plus aux ludothécaires parmi vous et aux étudiants ludothécaires, et peut-être moins aux bibliothécaires qui connaissent déjà un peu Médiaquitaine, je pense. Et voilà, je déplore juste qu'il n'y ait pas d'étudiants de la filière bibliothèque de l'IUT, des métiers du livre. Bon, voilà, je pense qu'ils sont en cours ou en stage, enfin, voilà.
Ça veut dire qu'on pense quand même assez essentiellement
je pense que c'est un bon
signal.
Alors, moi, je représente la formation continue. Médiaquitaine est un organisme de formation continue, mais il me semble qu'il serait important de réfléchir, de rencontrer, de discuter avec les organisateurs de la formation initiale et donc de l'IUT qui cohabitent hein, dans le même espace, dans le même bâtiment. Voilà. Bon, on en reparlera. On se connaît un peu. On ne relève pas aujourd'hui de la même université puisque Médiaquitaine relève de l'université de Bordeaux et relevait avant cette université de l'université Bordeaux. Montesquieu, droit, gestion, voilà, c'est pour des raisons historiques, hein, c'était pas des raisons de fond, mais plutôt de forme ou de stratégies diverses. Et la formation initiale, donc, des carrières des bibliothèques, relève de l'université de Bordeaux-Montaigne, qui n'est pas rentrée dans la nouvelle université de Bordeaux. Bon, je ferme la petite parenthèse, simplement pour vous dire que donc, je ne sais pas quelle est la place du jeu au sens large dans la formation initiale des bibliothèques. Hein, je pense qu'elle est, elle est pas très, voilà, elle est voire pas, voire inexistante. Mais bon, c'est pas la seule chose. Voilà, hein, il y a de dans la à Bordeaux en tout cas. Voilà, voilà. C'est... Alors donc Médiaquitaine a plusieurs missions qui sont donc comme ça a été dit d'organiser des programmes de formation continue pour les personnels des bibliothèques universitaires et pour les personnels des bibliothèques territoriales, mais a aussi une mission de préparation au concours des filières bibliothèques des catégories de l'ensemble des catégories pour les bibliothèques universitaires, donc fonction publique d'État, et pour les catégories A et B par voie externe pour les personnels des collectivités territoriales, puisque c'est le CNFPT qui est chargé, lui, de préparer au concours par voie interne de la fonction publique territoriale. Mais Médiaquitaine a aussi mis en place deux formations qui peuvent être considérées comme de la formation initiale, mais qui sont plutôt de fait des formations soit de spécialisation, soit pour des personnels qui ne peuvent pas accéder justement à la formation initiale, et donc en reconversion professionnelle ou d'adaptation à l'emploi, au poste, qui ont été recrutés sur des contrats aidés, par exemple, dans les bibliothèques universitaires ou sur des contrats en bibliothèque territoriale, type contrat emploi d'avenir, etc. Donc un diplôme d'université qui s'appelle Technique et médiation documentaire formation professionnelle de base, qui est en fait... qu'on retrouve dans d'autres régions délivrées par l'ABF, l'Association des bibliothécaires des bibliothèques de France, mais il y a eu un conventionnement en Aquitaine pour que ce soit cet organisme Médiaquitaine qui délivre cette formation, et un diplôme d'université de spécialisation en littérature de jeunesse, qui d'ailleurs est proposé non seulement à des personnes qui travaillent déjà en bibliothèque, ou qui souhaitent y travailler, ou éventuellement des personnels qui travaillent dans d'autres secteurs autour des publics jeunes, donc des travailleurs sociaux, des éducateurs jeunes enfants, éducateurs spécialisés, voire animateurs, voire enseignants qui souhaitent se spécialiser sur la littérature de jeunesse. Voilà. Donc, dans le cadre... ce programme de formation continue, il a pour vocation... d'accompagner l'évolution des bibliothèques pour une meilleure adéquation aux pratiques et aux besoins de tous les publics, qui nécessite une constante adaptation. Donc, et la formation continue est là pour accompagner cette évolution, cette adaptation. Et elle peut prendre la forme de stages techniques en groupe restreint, au cours desquels les échanges d'expériences enrichissent les apports théoriques. Et aussi, donc, comme l'a dit Alain, des journées d'études qui permettent un partage de réflexions et de prospectives. Et d'ailleurs, les professionnels des bibliothèques sont largement sollicités pour intervenir dans le cadre de ces formations. Comme on l'a vu ce matin, le jeu est entré de plein pied dans l'offre des bibliothèques. Et on insiste beaucoup dans les programmes de formation sur la nécessité de travailler en partenariat avec les acteurs, quels qu'ils soient. Les acteurs du champ éducatif, culturel, social, de l'animation. Et donc les ludothèques sont des partenaires incontournables quand il en existe sur les territoires, quelle que soit leur forme, okay. Que ce soit sous la forme associative ou quand elles sont publiques, territoriales. Donc effectivement, dans le cadre des cycles de formation, alors on est 4 responsables pédagogiques en réalité. Donc moi, je m'occupe d'une partie des programmes de formation continue, plus précisément à destination des bibliothèques territoriales. Et mes autres collègues travaillent pour les programmes de formation continue, pour l'ensemble des personnels, pour les bibliothèques universitaires, etc. Donc pour ce qui est du cycle de formation qu'on a initié il y a un peu plus de 2 ans sur l'éducation artistique et culturelle, effectivement, il a été question du jeu en bibliothèque, qui est alors des jeux vidéo d'une part, parce qu'il y a eu des formations et il va continuer à en avoir sur les jeux vidéo, qui, comme l'a dit Yon ce matin, sont entrés dans les bibliothèques, souvent par la porte des espaces multimédia, numériques, etc. Mais plus largement sur l'offre de jeux Et d'ailleurs, il y a eu une formation qui a été organisée sur les ludomédiathèques, sur le modèle ludomédiathèque, où Evelyne était intervenue avec Patricia Petit pour présenter le projet de Saint-Médard. On avait visité la ludomédiathèque de Saint-Médard. Donc on va continuer à explorer ce champ-là. Les publics sont bien sûr donc des personnels en poste, mais aussi des personnels éventuellement en recherche d'emploi. Et également, pour ce type d'autres formations, on essaie et on encourage et on est satisfait quand il y a d'autres acteurs que ceux des bibliothèques, donc enseignants, documentalistes, éducateurs, animateurs et responsables de services culturels ou jeunesse des collectivités territoriales. Mais jusque-là, pas beaucoup de ludothécaires.
D'accord.
Voilà.
Merci, Anne. Je ne sais pas si Anne veut réagir, ou alors je prolonge un petit peu la question. Donc, hors champ institutionnel et diplômant, il y a une montée en besoin qui est importante, puisqu'il y a quand même un développement, une gamification de la société, un développement du jeu. Est-ce que, de façon temporaire, c'est aussi une ressource voilà, financière potentielle non négligeable pour les associations, simplement pour qu'elles puissent aussi... Et après, je mettrai les pieds dans le plat.
Former, c'est super, mais il faut du temps. Et quand... Quand vous faites le tour des ludothèques aujourd'hui, il y a les ludothèques qui sont territoriales ou les ludothèques qui sont associatives. Le chiffre, c'est plutôt 50-50 aujourd'hui. Je ne sais pas, pour les territoriales, ce n'est pas mon vécu, mais moi, je cumule déjà plusieurs casquettes. Je forme...
Vous êtes à flux tendu.
Voilà, je forme mes collègues salariés, je forme mes collègues de l'association qui sont animateurs, donc je leur transmets des savoirs, forcément dans nos communications. J'ai des bénévoles qui interviennent dans ma ludothèque, donc forcément je les forme. Mais ça, ça rapporte pas de l'argent. Hein. Ça, je peux vous dire, ça prend du temps. C'est passionnant, mais ça rapporte pas. Non. Pas pour moi, en tout cas.
Non, j'entends. Mais les praticiens sont vous. Donc c'est là qu'il est important, peut-être pour nous aussi, d'arriver à dégager du temps pour transmettre aussi vos compétences.
Et après, c'est effectivement très disparate sur le territoire. C'est-à-dire qu'on constate de plus en plus, avec les contractions de budget public auxquelles font face les associations, hein, pas que les structures publiques, que ça devient, effectivement, il y a un certain nombre de choses annexes qui deviennent des ressources. Alors, ce n'est pas uniforme sur le territoire, ce n'est pas tout le monde. Mais je sais que moi, par exemple, sur ma structure, aujourd'hui, on forme beaucoup, qu'il y a pas mal d'interventions. Il y a même des... dispositifs qui sont en train de se mettre en place dans certaines villes pour former les ludothécaires à former. C'est-à-dire l'étape d'avance, c'est-à-dire permettre aux ludothécaires de transmettre de manière plus construite leurs compétences et leur champ d'expertise. Et ça devient quand même, on le trouve à de plus en plus d'endroits, à des points même qu'à certains endroits ça pose des problèmes de mise en concurrence des gens via le jeu des appels d'offres. Ça devient quand même une ressource non négligeable. Et surtout, je le vois dans beaucoup de grandes agglomérations, c'est quelque chose qui devient important.
Bon, on va mettre un peu les pieds dans le plat, parce que c'est troublant pour vous que des bibliothécaires qui n'ont pas été formés à la gestion d'animation de ludothèque soient de plus en plus nombreux à proposer des activités de jeux en bibliothèque. Vous êtes troublé comment par rapport à ça?
Alors, moi, je suis un peu taquin.
Ah oui, moi aussi.
Vous êtes un peu taquin. Moi, je dirais, est-ce que ça serait troublant pour vous que des ludothécaires qui n'ont pas été formés à la gestion du livre soient de plus en plus nombreux à introduire du livre et à gérer des parcs de livres dans leur structure? Voilà, je trouve que la question est rigolote parce qu'elle va toujours dans un sens, donc je me dis que pourquoi pas l'inverser. C'est toujours un prisme rigolo d'inverser les questions. Pour... Et après, je vais répondre un peu plus sérieusement. Alors, j'y vois un point positif, une chose qui me tente de répondre non, qui est que pour moi c'est un vrai signe de bonne santé, de développement, d'intérêt pour le jeu, ce qui est extrêmement positif pour nous. Plus il y aura de pratiquants, plus il y aura de personnes qui auront le souci du jeu, le souci de le transmettre, le souci de le partager, plus à mon avis il y aura besoin de gens qui seront spécialistes de ce média qu'est le jeu. Et j'espère, de ludothécaire. Ça, c'est la vision optimiste de la chose. La version un peu plus mitigée de la chose, c'est que souvent, j'ai vu des expériences se monter sans concertation avec des professionnels du jeu, et des expériences un peu, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, se planter, et revenir a posteriori vers des professionnels du jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai été sollicité plusieurs fois sur des équipements qui étaient en grande difficulté, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire fonctionner ça et qu'ils étaient, enfin les personnels étaient vraiment en détresse par rapport à cette question du jeu au milieu là, qu'ils ne savaient pas du tout comment gérer, et des façons de l'approcher qui n'étaient pas du tout pertinentes au regard du travail de ludothécaire. Et là où il y a du coup une inquiétude, c'est que ces expériences justement qui, j'allais dire, ne fonctionnent pas, ces échecs, ces mises en difficulté, à la fois de personnes, mais aussi de public, hein, parce qu'un espace qui ne fonctionne pas bien, ça peut mettre en difficulté au-delà des professionnels. Ça peut aussi décourager des gens. Ça peut aussi créer des situations de rejet du jeu, de rejet du média, de rejet... Et donc je suis assez mitigé. Du public et aussi des professionnels. Moi j'ai vu des professionnels qui ne voulaient plus en entendre parler, et des élus par corrélation, voilà. Mais effectivement, où toute la chaîne disait « on n'en peut plus, on n'en veut plus », ils avaient essayé 36 trucs de manière empirique, et des fois ils sont tombés juste, ils ont réussi à faire des choses, et des fois ça a complètement échoué.
Evelyne nous a démontré la chaîne vertueuse ce matin, un projet bien voilà. Conçu dès l'origine.
Et voilà, donc à la fois c'est bon signe, c'est signe qu'il y a une vraie vitalité du jeu, du monde du jeu, un vrai intérêt, et à la fois... En partant trop la fleur au fusil, on risque aussi parfois de se mettre en difficulté. Et je pense que voilà, il y a un intérêt. Alors, je sais qu'il y a la question d'après, je ne vais pas trop manger dessus, mais il y a un intérêt réel à ce que ça se fasse dans une démarche vraiment concertée. Quoi.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, le monsieur. Voilà. Il y a une nécessité de réciprocité aussi et de temps aussi. À prendre le temps à se respecter et à regarder ce que fait l'autre. Et voilà, et à se connaître. Oui, c'est très important.
Ça engage un enjeu stratégique de l'association, de positionnement par rapport à ça. Je vais le formuler différemment. Si, donc c'est un point de vue que strictement personnel, bien évidemment. Si la part du jeu dans les politiques publiques prend de plus en plus de place, l'inquiétude, elle était latente, on l'a entendu ce matin, il y a cette dimension de champ concurrentiel, de non-reconnaissance de compétences qui sont exercées dans les associations, qui ne sont pas forcément avec des personnes qui ne sont pas forcément identifiées par la puissance publique pour pouvoir venir travailler dans le champ public, parce qu'on est bien d'accord, le but du jeu, c'est qu'il y ait de plus en plus du jeu, si on veut, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'intéressent, enfin que l'activité se développe, simplement. Simplement, ça risque de faire des dégâts à la marge, parce que, si la question a été posée ce matin, une politique publique, c'est une politique publique, et un champ associatif, qu'il s'agisse des ludothèques ou toute autre chose, c'est celui qui vient aussi combler les déficits de la politique publique, qui vient dans l'interstitiel rendre service à la population qui, là, il y a une part qui est en train de monter en puissance, donc on sent aussi cette inquiétude. J'imagine que ça génère aussi une stratégie au sein de l'ALF, peut-être de reconnaissance du métier, de dialogue avec les institutions, pour qui pour les formations, qui pour la reconnaissance d'un statut, qui pour le renforcement du champ associatif ou l'intégration plus forte ou plus aisée dans le champ public. Oui. Je suis désolé, Hélène.
Alors effectivement, nous, aujourd'hui... c'est devenu pour nous un enjeu stratégique majeur. C'est-à-dire que très clairement, positionner l'ALF, positionner les ludothécaires en tant que ressource, mieux faire connaître tout leur potentiel et devenir, entre guillemets, des références qui seraient au moins fortes, voire incontournables autour des questions de ce qu'on appelle pompeusement l'ingénierie ludique, c'est-à-dire tout ce qui est construction de projets montés par la puissance publique autour du jeu, etc., c'est vraiment un enjeu fort. Il y a encore peu de temps, enfin, on est obligé de jouer des coudes. Moi, il n'y a pas longtemps, enfin, même encore régulièrement, je me fais inviter dans des réunions où on n'est pas invité, mais j'essaye d'avoir des relais pour avoir les informations de ces réunions-là, se faire inviter à des réunions à la mairie de Paris, se faire inviter dans des réunions à la CAF, se faire inviter... Alors à la CAF, on est de mieux en mieux identifié, mais il y a vraiment des endroits où on a des difficultés à pousser les portes. Et parfois, vraiment, on s'invite très clairement et on dit qui on est et on dit ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. On ressort aussi beaucoup d'expériences pilotes du terrain. C'est-à-dire on va essayer d'extraire plein d'expériences qui fonctionnent bien partout sur le territoire, plein de relations entre les collectivités publiques et les ludothèques ou ludomédiathèques ou médiathèques dans des ludothèques ou l'inverse. Enfin voilà. Et tout ce qu'on va réussir à extraire comme expérience, le valoriser et s'en servir d'appui. Alors pas forcément le transposer, parce qu'une situation d'une commune à une autre n'est pas toujours transposable, mais on s'appuie beaucoup là-dessus. Et il y a une vraie volonté, notamment autour de la création d'un centre de ressources et d'un comité d'appui à la création de tout ce qui est travaux... mise en place de ludothèques, accompagnement de porteurs de projets, accompagnement de collectivités porteuses, accompagnement des responsables des collectivités aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte en ce moment. Quoi.
Tu voulais intervenir, Hélène ?
Oui, simplement, très rapidement, mais pour revenir à la question du jeu au sens large et des questions de définition. Parce que dans les bibliothèques, les bibliothécaires jeunesse, traditionnellement, ont toujours pratiqué, enfin, depuis très longtemps, des activités ludiques avec des groupes d'enfants. Ils ont été amenés à imaginer des propositions d'accès aux livres et à la lecture par le jeu. Ces activités, elles se sont encore renforcées avec la réforme des rythmes et la participation des bibliothèques au temps d'activités périscolaires. Et donc c'est ce terme d'activité, parce que j'ai entendu ce matin effectivement que une des spécificités des ludothèques serait cette question des activités proposées. Et c'est cette terminologie, voilà, elle me renvoie aussi au fait que on parlait plus traditionnellement dans les bibliothèques de l'animation. On parle plutôt aujourd'hui d'action culturelle. On parle plutôt d'éducation artistique et culturelle que d'activité d'animation. Le terme médiation, il a tendance à se substituer aujourd'hui à celui d'animation, et c'est symptomatique que la licence professionnelle de ludothécaire ait modifié son intitulé, puisqu'il ne s'agit plus de gestion et d'animation de ludothèque, mais de il y a le terme médiation qui est voilà. Voilà, et ça me semble significatif. Mais ça me semble significatif de ce rapprochement entre les deux univers professionnels, et qui va continuer à avancer. Et je pense que la formation doit accompagner ce cheminement et ce partage, et donc créer des passerelles entre les deux univers professionnels.
Je vais me permettre de paraphraser, je ne sais plus exactement la phrase, mais le sens, c'était le responsable de la BDP des Vosges, qu'on avait invité à l'université d'été de Toulouse il y a 3 ans, des ludothèques, et qui disait, en faisant un peu une caricature, en fait on a mutuellement à s'apporter, ça va rejoindre ce que vous avez mis à l'instant, c'est l'idée que les ludothécaires, là où on a des choses vraisemblablement à apporter à la bibliothèque, c'est dans la dimension anima, dans la dimension mettre en vie, dans la dimension mettre en espace, dans tout ce qui est la posture professionnelle par rapport au jeu. On parlait ce matin beaucoup de la question de contenir, de limiter, de délimiter. Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça qui ressortaient autour du jeu. Et qu'effectivement, on a peur que le jeu envahisse les espaces, alors de manière physique, de manière sonore, de différentes manières. Enfin, le jeu semble être une espèce de termite comme ça en bibliothèque. Et pardon ?
C'est Pac-Man.
C'est Pac-Man, voilà. Mais il mange des bibliothécaires. Et à contrario, effectivement, les ludothécaires, nous, si on a une compétence qui est plutôt forte là-dessus, il y a un endroit où on est plutôt faible, c'est sur la dimension du tech, sur notre propre structuration, sur les lieux, sur la relation parfois au pouvoir public. Alors je parle évidemment du réseau dans son ensemble, donc c'est une caricature, ça ne représente pas toutes les ludothèques, mais c'est quand même quelque chose qu'on trouve. Et je crois qu'à un moment donné, il y a des choses dans cette dimension-là que nous on a apportées, et vraiment dans cette posture du professionnel par rapport à un public, par rapport à un objet, où on laisse libre, mais dans un cadre qui est malgré tout un cadre réglé, etc. Et toute la partie structuration, où effectivement, nous, je pense qu'on est en retard. Pour donner un exemple, on est en train de lancer Wikiludo. Wikiludo, c'est l'équivalent de votre...
Je sais plus comment,
SIGB, voilà, nous, ça commence tout juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les ludothécaires cataloguent chacun dans leur coin.
Partagé à l'échelle nationale.
Voilà.
C'est une base commune.
Et on commence aujourd'hui, enfin, à part, il y a des exemples locaux où il y a des bases de données mutualisées, mais globalement, il n'y avait pas de système qui fonctionnait au niveau national, voire international, parce qu'on fonctionne plus largement que la France sur la francophonie. Et il y a un vrai niveau de structuration à cet endroit-là, quoi.
Anne, vous me disiez d'ailleurs que dans la formation, tout ce qui était gestion de collection, apport, non pas théorique, mais en lien avec collection, vous avez justement apporté beaucoup pour la licence, dans le cadre de la licence.
Dans le cadre de la licence, la partie ludothéconomie est abordée, effectivement. Moi, j'ai un parcours dans cette formation qui est un peu particulier, puisque j'ai fait mon stage ici, à la Ludomédiathèque. Et j'ai participé au projet tutoré qui était donc évoqué ce matin avec Montaigne. Et donc, j'ai côtoyé pas mal de bibliothécaires. Donc, je suis vaccinée. Vous me faites plus peur. Qu'est-ce que... Voilà, c'est ça. Mais du coup, oui, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a effectivement un maillage du territoire qui est impressionnant dans votre profession. Il y a une expertise sur le traitement, l'équipement des documents qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Elle ne peut pas être transposée. On ne peut pas transposer ce que vous faites aux autres supports.
C'est que nous, on essaie de s'en échapper et puis que vous essayez au contraire
de la copier. J'ai pas dit qu'on essayait forcément de vous copier ou d'aller vers ça. Mais disons qu'on a des... On a des besoins. Je veux dire, il a été évoqué ce matin la masse de production de matériel. Un jeu, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, pour arriver à le prêter et le faire revenir, le faire repartir, le faire jouer sur place, forcément, on a des questions techniques. Et vous, vos techniques, elles sont opérationnelles et elles sont intéressantes. Elles nous inspirent. Oui, là, dans ce cas-là, oui, j'ai trouvé que c'était intéressant. Effectivement, mon passage dans le monde des bibliothèques.
Pour le coup, ça pose la question des recrutements, des constitutions des équipes, des compétences. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut dans les médiathèques ou dans les ludomédiathèques ? Est-ce qu'il faut aller vers des équipes mixtes bibliothécaires-ludothécaires ou des compétences partagées ou des compétences polyvalentes ? C'est parti.
Alors moi, je vais faire une réponse... pas du tout équivoque.
En fait,
qu'on soit clair, je vais fâcher la moitié de la salle et je vais ravir l'autre. Hein. Donc voilà, comme ça, je ne vais pas être dans la demi-mesure. Vous êtes prêts ?
Tout est écrit, en fait. Hein, je...
Alors moi, je pense incontestablement...
C'est pas sûr que vous fâchiez la moitié de la salle.
Ah, j'ai vu que ce matin, il y en a deux, trois qui réagissaient. Je dis la moitié et peut-être que je ne fâcherai pas tout le monde.
On va prendre les noms.
Moi, je suis extrêmement clairement positionné pour des équipes mixtes. Pour des équipes composées et de bibliothécaires, et de ludothécaires, et de disquaires, et de tout ce qu'on veut en care. Parce que je pense qu'à un moment donné, je vais expliquer pourquoi, je pense que la polyvalence a du sens, mais qu'elle a avant tout du sens en termes d'organisation. Et que très souvent, la polyvalence, c'est un palliatif à un manque de monde, à un manque parfois de moyens, à un manque de choses qui ne nous permet pas d'avoir tout le monde tout le temps en permanence. Je pense aussi vraiment avec énormément de conviction que dans une carrière professionnelle, on évolue. Et quand on se consacre à un objet, quand on mène des expériences dans la durée sur cet objet, quand on vit des expériences autour de cet objet, y compris au contact d'autres professionnels, on a une forme d'expertise ou en tout cas d'analyse avec un profond recul qu'on n'a pas quand on est spécialiste de tout. Alors, on dit bibliothécaire, ludothécaire, mais si je pousse la caricature, vous me pardonnerez ceux à qui ça ne conviendra pas, mais on pourrait imaginer aussi bibliothécaire, ludothécaire, disquaire, discothécaire, vidéothécaire, homme et femme de ménage équerre, et etc. etc. On pourrait déployer ça à l'infini. Et je crois qu'à un moment donné, ça a une limite, cette histoire de polyvalence. Moi, je crois beaucoup plus dans la construction à plusieurs, en partageant les métiers, en partageant les expériences, que dans une approche... Ouais, c'est ça, dans une approche purement où tout le monde fait tout, tout le temps, sur tout, quoi.
Je vais juste me faire l'avocat du diable un tout petit peu. Dans les grands équipements, hormis la question bibliothèque, ludothèque, la multiplication des compétences, elle dépasse très largement ce cadre-là. Ça dépasse très largement maintenant le cadre de « on a besoin d'informaticiens, on a besoin en fait de compétences, on a peut-être besoin d'un musicien, on a peut-être besoin d'un psychologue, on a besoin de beaucoup de choses dans la mesure où nos activités sont diversifiées. » Pour autant, où je me fais un petit peu l'avocat du diable, car là, moi, on parle de grandes structures, là, hein, mais allez. La Gironde comme d'autres départements pour le réseau partenaire de la BDP, donc en dehors des espaces urbains, c'est 1050 personnes, 800 bénévoles, et donc des structures ne sont pas professionnalisées, et puis parfois il y a une, deux, trois personnes. Donc la spécialisation, peut-être qu'en fonction de la taille des équipes, elle a aussi ses limites. C'est une hypothèse. Ceci dit, ça marche vachement bien. On n'arrête pas. Les mamies à qui, formidable bénévole, à qui on fait des démonstrations de, comment vous appelez ça, de guitare héros, il faut les calmer au bout d'un moment. Mais c'est formidable, formidable.
Je trouve que ça rejoint, ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand on n'a pas les moyens d'eux qu'on se tourne vers la polyvalence. Plus on est en difficulté sur les moyens, plus on est polyvalent. Aujourd'hui, je connais des ludothécaires dans leur ludothèque qui sont tout seuls, ils font absolument tout, y compris leurs affiches. C'est des informaticiens, Weber, tout ça. Ben voilà, il y en a une là. Donc à un moment donné, s'il y avait les moyens dans la ludothèque d'Anne, d'avoir un web designer, d'avoir quelqu'un qui lui fasse ses affiches, d'avoir... Je pense qu'elle dirait pas non. Enfin, si, tu dirais non. Non.
J'ai mauvais caractère. L'esprit de contradiction, c'est connu. Oui, donc c'est pour ça que j'allais rebondir avant que vous posiez la question. La polyvalence, elle a l'intérêt que lorsqu'elle n'est pas subie, et quand elle n'est pas poussée à l'extrême. C'est intéressant quand elle est choisie. Si elle n'est plus choisie, c'est plus de la polyvalence. C'est autre chose. Et elle est plus enrichissante. Effectivement, dans ma ludothèque, je cumule plusieurs fonctions, et c'est difficile parce que je suis une seule personne. Et donc, du coup, je trouve des solutions, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les bénévoles. Donc j'ai des bénévoles qui m'aident sur les temps d'animation, j'ai des bénévoles qui m'aident sur la réalisation de mes affiches, j'ai un bénévole qui me suit mon PC, parce qu'aujourd'hui, technologiquement parlant, il faut un PC dans une ludothèque qui fonctionne avec un logiciel, sinon on ne prête pas les jeux, on ne suit pas ses fréquentations. Si on ne fait pas ses fréquentations, on n'a pas ce qu'il faut pour aller voir les élus, si on n'a pas les élus, on n'a pas l'argent. Et c'est tout comme ça. Pas de pub, personne qui vient à la ludothèque. Enfin bon, c'est... Voilà. Donc ça c'est d'abord, la polyvalence, elle est indispensable dans certains endroits, et c'est compliqué. Ensuite, la polyvalence, il faut lui donner du sens. Et ce que vous décriviez tout à l'heure sur les compétences, c'est le phénomène de professionnalisation. Et donc là, c'est la professionnalité qui est interrogée, et le professionnalisme. Et c'est deux choses différentes. La professionnalité, c'est notre identité de professionnel. Et le professionnalisme, ça va être plus les autres, le regard des autres, les injonctions des autres. Et quand je dis les autres, c'est les élus, c'est les financeurs, c'est les familles pour nous, essentiellement, parce qu'on a beaucoup, quand même, dans notre public, c'est des familles. Donc ça effectivement, c'est un phénomène qui n'est pas unique aux bibliothécaires et encore moins aux ludothécaires. C'est le monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai commencé donc il y a plus de 20 ans. Je faisais pas tout ça. Hein. Je faisais pas tout ça. C'était pas possible et je savais pas faire. Mais j'ai appris
aussi. Hein. Ouais. Hélène.
Moi, je rajouterais juste que oui, je pense que la mixité, elle est indispensable là où elle est possible. Qu'il n'y a pas un modèle, il y en a plusieurs, et que selon les territoires, selon les forces en présence, et que lorsqu'il y a des ludothèques existantes sur un territoire et qu'elles peuvent continuer à exister, je pense fondamental que la bibliothèque travaille en partenariat avec la ludothèque, que les professionnels travaillent ensemble, et c'est le cas, certains ici peuvent en témoigner. Et Cette professionnalisation, elle doit être de part et d'autre, hein, et du côté des bibliothécaires aussi, hein, parce que bon, le jeu est entré de plein pied, mais ça nécessite une formation. Il y a une prise de conscience de l'importance du jeu comme objet culturel à part entière, mais ça nécessite des compétences que les bibliothécaires doivent aussi acquérir, et doivent aussi acquérir auprès des professionnels et donc des ludothécaires. Donc moi, je pense que je vais recruter des ludothécaires pour participer à la formation des bibliothécaires aussi. Voilà.
Je me permets de t'interrompre. Donc j'ai envie de dire, c'est dans le monde idéal, et c'est top. C'est très bien, il faut le faire. Par contre, moi, je ne sais pas, ici en Gironde, mais dans mon Gers profond, les bibliothèques ne sont pas toutes formées. Les ludothèques ne sont pas toutes formées. Et si on nous demande en plus de former des gens qui ne sont pas formés au jeu, ça devient vachement compliqué. Et vu mon quotidien de professionnel de ludothécaire dans ma ludothèque, déjà que je cours partout, si en plus je dois répondre à la question de la bibliothécaire d'à côté, parce que je voudrais introduire du jeu, s'il vous plaît, là, ça va devenir tendu, je vous le dis tout de suite. Je vais être très vite. Voilà. Là, je vais avoir besoin d'une piqûre de rappel pour mon vaccin.
Comme on veut garder un petit peu de temps, hein, que la salle reste, une dernière question, mais à la limite, on peut répondre juste sur les items. En développant, on va voir. Vous avez un auditoire, il faut en profiter. On va jouer un petit peu. Voilà, chacun, je vous donne une baguette magique. Et vous pouvez mettre chacun 3 vœux pour faire évoluer le paysage de la formation des ludothécaires et ou des bibliothécaires en France. 1 vœu. 3 vœux. Oui. Bah ouais. Oui, mais ça peut aller vite, 1 vœu. Hein, je ne sais pas, je veux... Avec une lampe, enfin bon. Ouais.
Oh, je veux bien commencer avec 1. Bon, le premier, ça serait d'avoir une chose qui nous manque aujourd'hui, c'est une meilleure identification des ludothécaires, des ludothèques et de tous les possibles qu'il y a autour du jeu et du support jeu.
Au niveau national.
C'est un vœu à tiroir, il y en a 3-4 cachés dedans. Ah ben, au niveau international, on n'est pas obligé non plus de se limiter. Hein.
Galactique.
Je dis ça à moitié en rigolant, mais on travaille beaucoup en ce moment, notamment avec les pays francophones. Donc il y a des passerelles avec le Canada, il y a des passerelles avec la Belgique, avec la Suisse. On en a aussi, nous, régulièrement avec l'Italie et l'Espagne. Et donc, à un moment donné, quand je dis international, c'est même qu'à moitié en blaguant. C'est-à-dire qu'ils rencontrent les mêmes problématiques que nous sur des niveaux divers. Quoi. Donc.
Un autre vœu ?
Je vais être plus tribale, plus courte. J'en ai que 2 d'ailleurs. De l'argent.
Pour qui ?
Pour les ludothèques et les ludothécaires.
Pour les associations.
Pour tout le monde.
Non, pour tout le monde.
Pour tout le monde.
De l'argent et du temps. Pour aller se former.
Pour tout le monde.
Pour aller voir les bibliothèques. Pour aller voir aussi les barrageux qui montent aussi. Pour aller voir les boutiques de jeux qui font aussi du prêt de jeu. Pour aller voir tout ça. Du temps. Du temps.
Et est-ce que ça passe par une labellisation nationale, une identification, une aide, une reconnaissance ? C'est un peu tout ça ? Qu'est-ce que tu veux, toi ?
Non.
Hélène.
Alors, moi, j'en aurais essentiellement 2, mais c'est du... Alors, évidemment, du temps aussi accordé à la formation. Voilà, parce qu'on sait qu'il se réduit, ce temps-là. Mais enfin, bon, le temps et l'argent, c'est très...
Oui, mais c'est une injonction, on n'en fera rien.
Voilà. Et favoriser l'émergence de métiers partagés, hein, donc d'un métier de ludo-médiathécaire, hein, très clairement. Donc, de favoriser des formations conjointes, ça me semble incontournable. Et j'aurais un vœu... Mon troisième vœu, c'est vraiment d'utiliser davantage le jeu dans la formation. Donc, alors ça, c'est un vœu, je pense, réalisable. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas assez dans cette pratique-là. Ça commence, hein, ça émerge du côté des bibliothèques universitaires, d'ailleurs.
En faire une fin en utilisant le moyen, à un moment donné.
Oui, oui, oui. Ouais. Donc, de développer l'utilisation du jeu comme aussi comme méthode pédagogique, voilà, tout ce qui est jeu de rôle, d'improvisation, Serious Games et compagnie.
On rentre dans ce débat-là ou... On est
foutu là. Alors, dernière réaction de Nicolas et puis question avec vous. Question-réponse.
Juste très très vite sur la question du label. Alors je ne vais pas rentrer dans les modalités parce qu'aujourd'hui ça serait extrêmement compliqué. Mais la question est dans les tiroirs. Enfin elle est même un peu plus que dans les tiroirs. Elle est sur la table, sur la pile. On est vraiment en train de travailler à ça parce qu'aujourd'hui on nous le demande. Et surtout, surtout, il y a des gens qui sont en train de commencer à le faire pour nous. Et ce qui n'est pas sans nous inquiéter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des pouvoirs publics qui s'emparent et qui disent « Ah ben, on va faire un référentiel des ludothèques, on va faire un machin, on va faire un bidule. » On a dit « Hop, 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 bouge pas, on arrive. » Et voilà, aujourd'hui, nous, on travaille là-dessus et on est en train aussi de travailler sur quelles peuvent être les modalités de cette labellisation et quels peuvent être les moyens que ça se fasse dans des bonnes conditions, c'est-à-dire quelque chose qui soit incluant et quelque chose qui implique des professionnels de ludothécaires à l'intérieur du processus de labellisation. Et effectivement, on a besoin aujourd'hui, je pense que ça fait partie du processus de professionnalisation et de maturation, d'avoir effectivement, en quelque sorte, un cadre structurel des ludothèques. Quoi.
Isabelle. Ah, c'est pour la labellisation.
C'est pour le label.
Vous dites que je prends dans 5 minutes.
Voilà, c'est essentiel pour la reconnaissance nationale et puis pour votre reconnaissance locale. En fait, à chaque fois, effectivement, vous avez à entamer un dialogue avec des élus locaux pour que vous ayez des moyens pour pouvoir avancer. Allez, on est parti.
Alors, bonjour, moi j'ai une question un peu...
Vous pouvez vous présenter ?
Éléonore Clavreul, BPI. Une question un peu subsidiaire, mais qui m'intéresse néanmoins. Je me demandais quand le personnel des ludothèques était... rattaché à la collectivité territoriale, donc pas associatif, quel était son statut, quelle filière, quel corps d'emploi, quel grade, quelle carrière.
Alors, je vais parler sous la caution de Josette Hospital. Alors, a priori, pour le moment, effectivement, il n'y a pas de statut à proprement parler. Donc, on va être rattaché à différents statuts existants. Aujourd'hui, on en trouve principalement trois. Tu me corriges si j'ai une connerie. On trouve l'animation. On trouve docu, c'est-à-dire type bibliothèque, enfin documentaliste.
Alors, ce sont des filières.
Alors, les filières. Animation. Voilà. Ah oui, parce que moi, je suis sur les.
C'est pas grave.
Ouais, mais c'est la preuve que je connais pas très bien le milieu. C'était bon, hein, c'est ça. Et c'est tout, ouais, parce que il y avait rapporteur aussi qu'on voyait de temps à autre.
Dans la filière culturelle, ça peut être documentation ou effectivement bibliothèque. Et voilà. Après, vous avez les adjoints, les assistants, les bibliothécaires. Mais ça n'existe pas en tant que tel. Et on peut gager que l'État ne créera pas un statut de ludothécaire intrinsèque.
Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de contractuels.
En tout cas, on peut gager qu'en ce moment, on l'y encourage.
Pour ce qui est de Saint-Médard-en-Jalles, nous avons intégré les deux ludothécaires à la filière culturelle. Ils sont donc adjoints du patrimoine, catégorie C.
Ce sont les grades auxquels on peut recruter directement et pour les autres grades, après, il faut passer les concours.
Pour recruter directement, ils sont de toute façon recrutés en catégorie C,
oui.
D'office. Et après, on se bat, moi juste avant de partir... j'ai réussi à faire valider que tout le personnel ludothécaire, disons, parce qu'on a employé de ludothèque comme en bibliothèque, et les ludothécaires, donc que tous les ludothécaires puissent au moins être catégorie B. Donc après, ils passent des concours, les concours, les classiques, qui sont assistants, mais ça peut être du patrimoine, parce qu'il y a plusieurs filières du patrimoine. Donc en bibliothèque, si, parce que moi j'avais passé en conservation de patrimoine.
Après, c'est la filière des bibliothèques classiques.
Après, il y a des intégrations, on va dire, parallèles. Ça avait été le cas pour moi en tant qu'intégration par la loi Sapin, à une époque, mais qui demandait quand même une ancienneté, qui demandait une direction, enfin une responsabilité de poste, et puis une formation universitaire. Voilà. Donc si on avait ces trois conditions, remplissait ces trois conditions, on pouvait être intégré en tant que catégorie A bibliothécaire. Mais il y en a très très peu. Caroline, j'ai appris à midi, et justement,
catégorie A, bibliothécaire, mais elle peut vous en parler beaucoup mieux que moi.
Ceci dit,
c'est très délicat.
Je voudrais juste apporter un petit complément d'information par rapport aux filières dont vous parliez tout à l'heure. Effectivement, il y a la filière animation. Pardon, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Martine Normand, responsable de la ludothèque du Hayan. Un complément d'information, sachant que sur les filières, il y en a une troisième, c'est la filière sociale. Quand on est en fonction publique territoriale, effectivement... Désolée. Mais effectivement, on est directement intégré en catégorie B, mais dans la fonction publique territoriale, effectivement, je parle, quand on est souvent en municipal.
Pour parler à tout le monde, sinon c'est. Ouais. Votre témoignage.
Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et je suis sur un poste je suis catégorie B sur un poste de A. Donc voilà.
Merci.
On va prendre deux dernières questions, donc mademoiselle. Allez-y.
Donc Colline, je suis étudiante à l'IUT en licence pro médiation des données, mais j'ai fait le DUT en bibliothèque avant ça. Et j'ai fait le DUT en bibliothèque à l'IUT, et je suis en licence pro, mais dans une autre filière. Et pour revenir à la baguette magique avec les trois vœux, ça aurait été d'avoir plus de jeux dans ma formation et de rencontrer les élèves à l'IUT qui sont en filière ludothèque. On n'a vraiment aucun contact alors qu'on est, je crois même qu'on est au même étage.
On fera passer le message.
Bonjour, moi je m'appelle Quentin, je travaille à Bibliothèque Sans Frontières, je m'occupe de la sélection de contenu sur ce qui est jeux et jeux vidéo. J'ai une question pour vous, est-ce que, à votre avis, pour être un bon ludo-médiathécaire, il faut être un passionné de jeu avant tout, ou est-ce qu'on peut être pas du tout passionné de jeu, mais être un bon médiathécaire quand même ?
Il y a aussi des bibliothécaires qui ne lisent pas, hein. Je ne sais pas si ce sont de bons bibliothécaires. Donc.
Est-ce qu'on peut faire une réponse de Normand à cette question ? C'est autorisé ? Si je faisais une réponse de Normand, je dirais qu'être un passionné n'est pas un moins.
Par contre, un bon joueur ne fait pas forcément un bon ludothécaire. Ouais. Évidemment, il y a d'autres compétences. Ce serait
ça, c'est vrai. Enfin,
bon, c'est une palissade. Merci. À dernière intervention et puis en boucle et on passe le
c'est pour,
relais.
C'est aussi pour lancer une invitation. Donc voilà, nous.
Vous pouvez adhérer à la.
Non, c'est ouais, pas... je fais de la pub. Ouais. Alors, on organise un événement tous les ans l'ALF qui s'appelle les Universités d'été des ludothécaires. Cette année, on travaille sur quelque chose qu'on appelle les effets induits. Les effets induits, je vais pas vous faire un topo du jeu. Oui, du jeu. Je ne vais pas vous faire un topo trop long, mais l'idée des effets induits, c'est que ce n'est pas un prescripteur qui vient à un moment dire pourquoi on joue. Ce matin, on a beaucoup abordé les questions du jeu alibi ou du jeu support d'éducation ou du jeu, etc., etc. Et on va travailler toutes ces questions-là et on va notamment les travailler autour de la relation ludothèque-bibliothèque. Ludothèque-médiathèque, ludothèque et tout en care comme tout à l'heure. Donc l'idée, c'était de... Alors il y aura des invitations officielles pour des intervenants, mais on souhaiterait aussi, dans l'assistance, pourquoi pas, avoir des bibliothécaires. Ça nous intéresserait beaucoup d'avoir des gens qui partagent et d'avoir, sur les temps informels, des échanges là-dessus. Donc ce sera la première semaine pleine de juillet. Ça sera en Poitou-Charentes. Vous aurez toutes les infos sur le site de l'ALF. Nouvelle-Aquitaine. Ah là là, piégé. Donc Nouvelle-Aquitaine du Nord. Et là, voilà, ça sera début juillet. Alors le lieu n'est pas encore tout à fait déterminé, mais voilà, suivez ça sur le site de l'ALF si ça vous intéresse. On essaiera de communiquer aussi au réseau des ludothèques, des bibliothèques et des médiathèques.